La rencontre spirituelle aujourd'hui, un des grands jésuites de ce siècle, qui était le 28e général des jésuites, qui est mort en 1991, après avoir dû démissionner car il est tombé gravement malade, le père Pedro Arrupe, un basque, un espagnol. Le père Pedro Arrupe, donc le 28e général de la Compagnie de Jésus, est mort le 5 février 1991, il y a 7 ans, à l'âge de 84 ans. Son corps a été déposé pendant 3 jours dans la chapelle de ce qu'on appelle la curie généraliste, si vous voulez, la maison mère, comme on dit dans d'autres congrégations, où des milliers de personnes de toutes catégories sociales sont venues prier. Car les jésuites ont toujours eu et beaucoup d'estime de la part d'une grande partie de la population et des fidèles. Et les gens sont venus donc prier auprès de sa tombe et même, dans certains cas, verser des larmes. Et puis, il y en a qui murmuraient... qu'il fallait remercier Dieu pour nous avoir prêté cet homme inoubliable. C'était un être un peu timide et profondément mystique. C'est le 9 février, donc 4 jours après sa mort, qu'ont eu lieu les funérailles, qui ont été célébrées dans l'immense et grandiose église du Jésus à Rome. Jésus, je vous le rappelle, ça s'appelle G-E-S-U, accent grave, comme notre église du Jésus, qui porte le même nom, et qui nous rappelle un peu vaguement l'église du Jésus de Rome qu'il faut visiter, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, on devrait prononcer Gesù, c'est la façon italienne. Dans son homélie, donc son successeur, le père Peter Hans Kolvenbach, qui, soit dit en passant, est un Hollandais de rite oriental, que j'ai eu l'occasion d'interviewer ici à Montréal pour l'émission Rencontre à la télévision, a rappelé son attachement à l'exemple d'Abraham, car le père Arrupe lui arrivait souvent de parler d'Abraham comme étant un de ses modèles avec saint Paul. Il était parti pour un pays inconnu, Abraham. Eh bien, il en a été de même pour lui. Et il admirait aussi chez Abraham son profond esprit de prière. Et lui, le père Arrupe, avait un très grand esprit de prière. On le trouvait en prière très tôt le matin avant ses journées chargées. Jamais il ne ratait son oraison, sa prière personnelle et sa messe. Or, la messe de Requiem, la messe des funérailles du père Arrupe, est célébrée donc dans l'église du Jésus à Rome, avec, chose étonnante, ça vaut la peine de le mentionner, le maître général des frères prêcheurs comme célébrant principal. C'est selon une ancienne coutume. Et c'est assez étonnant de voir ce rapprochement entre ces deux grands ordres, l'ordre des dominicains et, on pourrait dire, l'ordre des jésuites. Il y avait là aussi 8 cardinaux, parmi lesquels, évidemment, le cardinal Carlo Maria Martini, dont on parle comme successeur à Jean-Paul II. C'est un jésuite qui est archevêque de Milan, un évêque étonnant. Je voyais un reportage sur lui récemment à la télévision américaine, où il ordonnait une quantité incroyable de prêtres dans son immense cathédrale qu'on appelle le Dôme de Milan. Il y avait aux funérailles du père Arrupe une foule d'au moins 300 prêtres, pour la plupart des jésuites, qui ont évidemment pris part à la concélébration. Le pape Jean-Paul II estimait le père Arrupe et lui a rendu visite peu avant sa mort, dès qu'il a appris qu'il allait au plus mal. Il lui a donné sa bénédiction apostolique, évidemment, et parmi les nombreux témoignages sur la vie extraordinaire du père Arupe. Nous voici devant un texte qu'a publié l'hebdomadaire anglais The Tablet. Un hebdomadaire catholique important. Je lis ce texte car il résume bien la vie de cet homme sur lequel nous allons tout à l'heure nous attacher à certains faits remarquables. J'étais seul scolastique lorsque j'ai rencontré pour la première fois Pedro Arupe au Japon, car il était missionnaire près de 30 ans au Japon. En 1953, dit l'auteur. Je l'ai connu par la suite comme provincial, puis général et comme ami au Japon et à Rome, où je fus assistant régional d'Asie orientale. Je fus aussi le seul témoin de sa thrombose cérébrale à l'aérodrome de Rome, à son retour des Philippines et de Bangkok le 7 août 1981. C'est là qu'il a dû démissionner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pedro Arupe m'a montré, dit l'auteur, à moi, mais aussi aux jésuites du monde entier, ce que signifiait être compagnon de Jésus, car sa similitude avec Ignace, ils étaient tous les deux des Basques, le fondateur de la Compagnie de Jésus, ça allait bien au-delà du sang basque commun à tous les deux et de la frappante ressemblance physique. C'est curieux, quand on voit des photos, il y a une ressemblance, ce nez, cette tête, c'est étonnant. Et l'auteur ajoute, elle s'étendait à une profonde parenté d'esprit. C'était la tradition dans laquelle Pedro Arupe était profondément enraciné. Les années de son généralat, il était supérieur général plusieurs années, ne furent pas une période aisée pour le monde. Il est arrivé au pire moment, on peut dire. Car l'Église et la Compagnie de Jésus ont eu beaucoup à souffrir après le Concile, on peut dire. Le Concile Vatican II se terminait tout juste lors de son élection, dit l'auteur de l'article de The Tablet. Une série de changements radicaux se produisirent et fournirent un test pour sa grandeur d'âme à ce prêtre. Le nombre des jésuites diminua fortement, souvenez-vous, et c'est ceux qui sont plus âgés. C'est incroyable la quantité de jésuites qui ont quitté l'ordre. Beaucoup quittèrent la compagnie et peu de candidats se présentèrent, et cela n'a pas détourné le général Pedro Arupe d'entreprises inédites pour répondre à des besoins nouveaux, et avec un optimisme caractéristique, il disait ne pas s'inquiéter de voir les effectifs de la compagnie se réduire de moitié si ceux qui restaient étaient pleinement engagés. Ils sont passés de 36 000 à 23 000 environ. Solidement ancré, dit l'auteur, dans le passé, il regardait pourtant comme peu d'hommes de notre génération ou de n'importe quelle autre, les besoins actuels et les possibilités futures d'un monde en rapide évolution qu'il voyait chargé de la grandeur de Dieu. Le père Pedro Arupe, j'ai dit c'est un basque, il est né à Bilbao en 1907. Et en résumé, sa vie, ça se trace comme ça. Il abandonne ses études de médecine pour entrer dans la Compagnie de Jésus en 1927, donc à 20 ans. Son désir, alors qu'il était étudiant en médecine, parce que son désir, fréquemment exprimé, d'être missionnaire, finit par se réaliser, et après des études en Espagne, en Hollande et aux États-Unis, où il lui arrive des choses assez étonnantes dans une prison, il arrive au Japon en 1935. Là, il doit étudier évidemment la langue japonaise, la culture japonaise, c'est pas facile. Surtout qu'il est parmi un milieu de jésuites allemands, c'est pas facile. Puis commence son activité missionnaire avec la charge d'une paroisse à Yagamushi. Puis au cours de la guerre, 39-45, on le soupçonne d'espionnage, on l'emprisonne durant 33 jours. Je vous expliquerai ça, c'est une expérience extraordinaire de solitude. Ben, la stupéfaction de ses gardiens, il les remercie de leur hospitalité. C'est un homme d'un grand raffinement. Hein? Quand la deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki le 6 août 1945, il est alors supérieur et maître des novices à Nagatsuka. C'est dans la banlieue de la ville, alors il est témoin de tout ça. Il utilise ses connaissances médicales pour traiter bon nombre de victimes qu'il fait transporter au noviciat des jésuites. 9 ans plus tard, en 1954, il devient professeur provincial des jésuites au Japon, puis garde cette fonction jusqu'à son élection au généralat, 11 ans plus tard, le 22 mai 1965. Alors, il est donc général pendant plus de 15 ans. Il est le premier supérieur général qui est choisi en dehors de l'Europe, il est choisi au Japon. Et durant son provincialat au Japon, il s'est montré absolument infatigable. C'était un homme de feu, tant au Japon d'ailleurs que dans ses fréquents voyages à l'étranger, où il va chercher des hommes et des fonds pour la mission au Japon. La province japonaise, comme on dit, a un recrutement international avec des jésuites de plus de 20 nationalités. Et sous la direction du père Aroupé, ben, elle connaît une croissance sans précédent dans la quantité et la qualité des services qu'elle offre au Japon et aux Japonais en général. Et le général des jésuites, quand il est élu, reste un missionnaire. Mais son domaine s'étend au monde entier, puis il voyage partout, c'est ça, un général, ça doit voyager énormément, c'est terrible. Il visite et encourage les jésuites, puis il apprend à connaître les gens des nations, de tous les peuples, ils sont dans 102 pays, je pense. Le monde qu'il voit est un monde où des millions de personnes meurent de faim, tandis que d'autres festoient et jouissent de tant de richesses qui, ça n'a pas de sens. C'est un monde où des peuples entiers souffrent de l'injustice politique et ça le touche beaucoup. L'injustice économique, puis l'injustice sociale, ça l'affecte. Un monde aussi de plus en plus indifférent à tout ce qui relève de Dieu, de la religion, du Christ. Ça le brûle, ça le... Il arrive à un moment difficile, comme vous voyez. C'était le monde auquel Pedro Aroupé veut que tous les jésuites se sentent envoyés. Des millions de diplômés, d'étudiants des collèges et universités de la Compagnie de Jésus, comme je le suis du Collège Brébeuf, eux aussi, sont appelés à devenir, non des piliers polis, là, d'une espèce de statu quo, mais ils doivent, les anciens des jésuites, devenir des acteurs du changement. C'est ce qu'il dit. Hein. Des êtres engagés. Et comme il dit si bien, des hommes pour les autres. Il le déclare, ça, des diplômés à Valence, en Espagne, en 1973, il ne cesse de le répéter. Et ce discours déconcerte beaucoup de gens qui l'interprètent comme l'abandon de l'éducation jésuite traditionnelle, qu'ils ont connu une éducation classique un peu en vase clos. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut une ouverture sur le monde. Dans son effort pour relever les défis d'un monde en mutation, le père Pedro Aroupé, général des jésuites, voit bien qu'il y a des erreurs qui se produisent. Il les déplore. Mais il donne pas d'ordre de repli. La lutte, comme il dit, pour un monde tout ensemble plus humain et plus divin, doit se poursuivre. Alors, il y a des malentendus avec des représentants de l'autorité, même dans l'Église. Cette Église à laquelle le père Aroupé reste attaché avec passion toute sa vie. Vous savez que les jésuites ont un vœu d'attachement au pape. Parmi les nombreux problèmes dont souffre le monde, il y a celui des réfugiés. Et c'est le dernier en date des soucis du général, ça. Il invite tous les jésuites à considérer comment aider ces réfugiés sans nombre, des millions. Il lance en 1980, juste un an avant son attaque, le service jésuite des réfugiés, qui en coopération avec d'autres organisations assiste des réfugiés dans le monde entier, il semble juste que le dernier jour d'activité de sa vie se soit passé avec les compagnons qui travaillent parmi les réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens en Thaïlande. Dans ce qu'il définit prophétiquement comme peut-être son chant du cygne pour la compagnie, il leur déclare dans son anglais assez particulier, assez personnel, « Je vous en prie, courage, je dirai encore une chose. N'oubliez pas ça, priez, priez beaucoup. Ces problèmes ne se résolvent que par la prière. Et ça ne se résolve pas, ça ne se résout pas par des efforts humains. C'est un cas classique, dit-il. Si nous sommes en première ligne d'un apostolat nouveau, il nous faut la lumière du Saint-Esprit. Il avait toute l'étoffe d'un saint, de quelqu'un, s'il n'est pas devenu, qui était certainement tout près de l'être. Pedro Arrupé demande lui-même sans cesse la lumière de l'Esprit-Saint dans la raison. Il pratique la raison toute sa vie. Il se lève avant tout le monde et avant de commencer sa journée incroyablement chargée, là, il prie. Il célèbre la messe. À Rome, il le faisait près de son bureau, dans la petite chapelle qui était de style japonais. Il avait gardé ce goût de la simplicité japonaise. Il appelait ça sa cathédrale. Alors, il méditait même, malgré son âge avancé, par terre, comme les moines zen, les mains sur les genoux. Pendant sa maladie, il continue cette prière. Ses visiteurs le trouvent ainsi toujours en oraison, égrenant son chapelet. Et une autre dimension à cette vie extraordinaire de Pedro Arrupé, un homme extrêmement chaleureux. Il avait un sens exceptionnel de l'amitié. Il a travaillé 14 ans de sa vie avec un de mes grands amis d'enfance, le père Lorando. Le père Louis Lorando, que personnellement je considère comme un saint qui est mort, ce Québécois qui a grandi au 755 de l'avenue Rockland à Outremont, avec une famille nombreuse, il y avait son frère Philippe qui est devenu jésuite aussi en Éthiopie. Tous deux sont morts malheureusement, mes deux amis d'enfance, ils étaient presque du même âge. C'est eux qui m'enseignaient à jouer au baseball quand j'étais enfant dans les années 30. Eh bien, Louis Lorando était son secrétaire pendant 14 ans. Et il m'a souvent parlé de Pedro Arrupé. Et Pedro Arrupé, le père Arrupé, a de grandes visions. Mais pour lui, ce qui tient la place centrale, c'est les personnes. Il s'intéresse de façon intense à tous ceux qu'il rencontre. Et cet aspect de son caractère ne peut échapper à aucun de ceux qui l'ont connu. De sans prétention, sans cérémonie. C'est un homme ouvert à tous. Spontanément, on lui applique le mot du père Broadbrick sur un autre missionnaire illustre, Saint-François-Xavier. Pedro Arrupé nous a offert l'image de la qualité la plus attirante ici-bas, c'est celle d'un homme totalement oublié de lui-même. Totalement oublié de lui-même. Le père, donc, Arrupé, est né en 1907 à Bilbao, et il y en a qui disent que cette origine laisse entendre que le père Arrupé parlait la langue basque, puisque Bilbao est en Pays basque. Mais il en comprenait un peu la langue, il pouvait dire quelques expressions caractéristiques. Il rappelle un jour, non sans humour, que pour cette langue-là, plus que pour bien d'autres, il a besoin d'un interprète. Mais il faut rappeler ici que le père Arrupé a parlé l'espagnol, l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, l'italien et le latin très bien. Son père était architecte. Et après ses classes secondaires, donc le père Arrupé a commencé ses études de médecine d'abord à Valladolid puis à Madrid. Il lui est arrivé des choses extraordinaires à Madrid. Il dit « Lorsque pour la première fois je mis les pieds dans les rues de Madrid où j'étais venu étudier la médecine, j'éprouvais le sentiment nouveau de celui qui, venant de quitter la pieuse et chaude atmosphère d'une famille austèrement chrétienne, se retrouve tout d'un coup emporté dans le tourbillon de la vie des jeunes étudiants dans une grande ville. Et la routine qui s'installe partout ne tarde pas évidemment à émousser ses élans intérieurs. Il fréquente la faculté San Carlos, la médecine lui plaît beaucoup, il s'adonne à l'étude. Mais quand il s'agit de vocation, il se passe quelque chose. Parce qu'il garde de cette époque de souvenirs très vifs, de quelque chose qui a pesé sur son choix. Et c'est encore bien plus fort que cette passion pour les études de médecine. Avec un groupe de ses camarades, il a décidé, un jour, je ne sais plus trop pour quelle raison, de devenir membre des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, qui était en plein essor à Madrid. Alors, assidûment, sans manquer un seul jour, ces jeunes espagnols, ou basques, ou catalans, visitaient à tour de rôle plusieurs familles qui vivaient dans des conditions proches de la misère. Il y avait un quartier un peu en dehors de Madrid, Vallecas, et ils allaient là, et lors de leur visite, il a découvert un monde qui lui était entièrement nouveau. Jamais auparavant, il n'avait rencontré face à face, ni touché de si près, La douleur terrible de la misère et de l'abandon. Il y avait des pauvres veuves entourées d'enfants qui demandaient du pain sans que personne leur en donne. Des malades à qui aucun bon samaritain ne procure le médicament dont ils ont désespérément besoin. Et des enfants, surtout beaucoup d'enfants, les uns presque abandonnés et les autres maltraités. La plupart mal habillés, pratiquement toute sa famille. Alors il raconte, un jour je demandais à un de ses gamins, « Qu'est-ce que tu manges? Tu prends ton goûter? » « Non, me répondit-il avec aplomb, tout en mordillant avec délectation une patate douce. » Alors Pedro Arupé, étudiant en médecine, lui dit, « Que fais-tu? » Il lui dit ça avec un sourire. Il dit, « Je prends mon petit déjeuner. » Et Pedro Arupé lui dit, « Mais, il est 4 heures de l'après-midi. » Et le petit bonhomme dit, « Je sais bien, mais c'est mon premier repas. Pour vous, ce serait le goûter. » Mais pour moi, c'est le petit déjeuner, le ton de sa voix trahissait une nuance de naïveté forcée, ou qui sait, raconte le père Arupé, de rancœur contenue. Puis il lui dit, vous n'aviez rien mangé aujourd'hui dans votre famille, est-ce que ton père ne travaille pas? Ah, il dit, c'est comme d'habitude, ni plus ni moins, nous ne mangeons qu'une fois par jour, et mon père ne peut travailler parce que je n'ai pas de père. Et Pedro Arupé remarque la froideur chez cet enfant dans l'analyse de sa faim et de sa misère. Hein. Il est comme un pauvre chien famélique, cet enfant-là. Il hante les rues à la recherche de quelques croutons sales. Et ça, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais un jour, il y a une sorte d'impulsion qui lui vient à l'étudiant en médecine Pedro Arupé à Madrid. Ça lui échappe, il se demande pourquoi il a fait un voyage à Lourdes. Il y est resté un mois auprès des malades, accouru de partout dans l'espoir d'être guéri par l'intercession de la Sainte Vierge. Et bien que simple étudiant en médecine, il dit qu'il a réussi à obtenir un permis médical pour observer de près les cas les plus intéressants. Et c'est ainsi que dans le bureau de constatation, il a pu suivre tous les contrôles médicaux. Il a assisté à un certain nombre de guérisons extraordinaires, inexplicable du point de vue scientifique, qui l'ont obligé à accepter la thèse du miracle. Il faut dire que, dans le milieu où il étudiait, il lui est arrivé toutes sortes d'autres épisodes qui ont marqué son séjour de 3 ans et demi à Madrid. Ça a pris peu à peu racine en lui, hein, il était étudiant à Madrid très jeune, à 17 ans, en médecine. Il y a eu un désir de plus en plus ferme d'aider les autres. La volonté de secourir non seulement tous les déshérités rencontrés à l'occasion des visites de la Saint-Vincent-de-Paul, mais beaucoup d'autres encore, qui pouvaient parfois jouir d'un grand prestige social, qui était riche. Et les études médicales, ça permet de rencontrer des gens très très bien. Mais ces gens-là sont souvent des athées, des gens dépourvus de tout au fond, des pauvres devant Dieu, parce que ils manquent de ce qui est l'essentiel dans la vie, la foi. Je m'inspire de deux livres, dont l'un que j'ai trouvé dans des livres d'occasion. Je vois, ça vient d'une communauté religieuse. Ah, si les communautés religieuses pensaient à moi, me téléphonaient, me disaient d'aller fouiller dans leurs livres qu'ils ne veulent plus, je pourrais trouver toutes sortes de merveilles. Je suis obligé d'aller les acheter dans des sous-sols d'églises ou des bazars. Et je perds un temps fou. Ah, mes sœurs, téléphonez-moi. Mais tous ceux qui ont des livres, les communautés religieuses qui ont des livres de trop, qui ne savent pas, je vous les achèterai au besoin. Alors, Pedro Arupé, itinéraire d'un jésuite, ce sont des entretiens avec Jean-Claude Dietsch, un jésuite, paru au Centurion. Et l'autre, c'est Pedro Arupé, l'espérance ne trompe pas, avec une préface du fameux père Henri Madeleine. Les deux volumes sont parus au Centurion, il y a déjà bien des années. Ça date de 82 et, si je me souviens bien, 81, c'est ça. Alors voilà, il y a eu de grands moments, des grands tournants dans la vie de ce jeune Pedro Arupé, étudiant en médecine. Hein? En premier, il y a Lourdes. Parce que pour lui, Lourdes, c'est la ville du miracle. Hein? Il a séjourné, comme je l'ai dit, 3 mois. Il avait obtenu en médecine son baccalauréat. puis il voulait travailler au bureau des constatations à Madrid. Ça lui était venu, cette idée, tout à coup. Des constatations, des miracles. Des médecins qui viennent de toutes les parties du monde, hein. Je vous expliquerai ça le 11, dans quelques jours. On va parler de Lourdes. Et il dit qu'il a été le témoin de 3 guérisons miraculeuses. Je lis le texte où il raconte ça. Il dit, j'étais le témoin au moment même où ces 3 guérisons miraculeuses se sont produites au milieu des fidèles qui priaient la Vierge Marie. Et lorsque les vérifications médicales ont été menées par les docteurs athées, cela a été pour moi très impressionnant. Car j'avais souvent entendu à Madrid parler mes professeurs athées aussi, des supercheries de Lourdes. Alors, c'était des athées qui faisaient les constatations. Il dit, là est née ma vocation. Dans cette atmosphère à la fois simple et grandiose, au pied de la Vierge Marie, entre la prière bruyamment insistante des pèlerins et le doux murmure du Gave. C'est un événement tellement fantastique que ça vaut la peine de le raconter en détail. Le père Dieche lui dit, à des jeunes qui vous avaient demandé que pouvons-nous faire pour mieux connaître Jésus-Christ, vous avez répondu en parlant longuement de l'Eucharistie puis de l'Évangile. Pourquoi? Il dit, je pourrais vous répondre parce que je m'adressais alors à des jeunes appartenant à un mouvement eucharistique, mais je dois en réalité affirmer ceci. L'Eucharistie est centrale dans ma vie. Je ne peux concevoir une journée sans la célébration du sacrifice eucharistique, mais il est évident que ce n'est pas sans rapport avec l'Évangile. Nous trouvons dans l'Évangile une image réelle et historique de Jésus, comment il vécut en Palestine. Et dans l'Eucharistie, nous trouvons Jésus-Christ vivant aujourd'hui parmi nous. Nous ne pouvons le voir de nos propres yeux, ni dans l'un ni dans l'autre cas, mais le récit de l'Évangile est la parole de Dieu. Il nous communique avec force le sens vital de cette parole. En lisant l'Évangile, nous percevons ce Jésus d'il y a 2000 ans, vivant et très proche de nous. C'est comme si Jésus de Nazareth continuait à vivre ce qu'il a vécu jadis. Il ajoute d'autre part, l'Eucharistie est le corps et le sang du Christ ressuscité, vivant, présent. Bien que caché sous les espèces du pain et du vin, il se fait présent, il nous parle, il nous inspire et il nous donne la force. Et on lui dit que... On imagine bien que ces affirmations s'enracinent dans des expériences vécues, puis il dit, oh oui, bien sûr, et voilà qu'il va parler de Lourdes. Il y eut d'abord l'un des miracles dont je fus le témoin à Lourdes. Avant mon entrée dans la compagnie, un jour j'étais sur le parvis, en compagnie de mes sœurs, quelques minutes avant la procession du Saint-Sacrement. Lorsqu'une femme, entre deux âges, passa devant nous en poussant une chaise à roulettes. Une de mes sœurs s'exclama, « Regarde, Pedro, ce pauvre garçon, sur cette chaise à roulettes. » C'était un jeune garçon d'environ 20 ans dont le corps avait été déformé par les contractions de la polio. Sa mère récitait le rosaire à haute voix et de temps en temps elle soupirait et disait, « Sainte Vierge, viens à notre secours !» Et c'était un spectacle réellement émouvant qui rappelait justement celui des infirmes qui supplient Jésus, « Seigneur, purifie-moi de cette lèpre. » On voit ça dans l'Évangile. Et il ajoute, elle s'empressa de gagner sa place parmi ceux qui attendaient le passage de l'évêque, portant l'ostensoir du Saint-Sacrement. Je vous rappelle qu'à Lourdes, pour ceux qui l'ignorent, qu'on se promène avec un ostensoir, c'est un objet de métal sculpté qui a la forme d'un soleil et au creux du soleil, il y a une petite vitre et derrière la vitre, il y a une hostie. Je suis obligé d'expliquer parce que les jeunes ne voient plus ça des ostensoirs. Je m'excuse auprès des gens qui me disent que je raconte des choses inutiles. Et derrière les deux petites vitres, là, entre les deux petites vitres, il y a une hostie. Consacré, c'est Jésus. Et le prêtre porte des beaux vêtements et un voile qu'on dit huméral, un voile qu'il porte sur les épaules pour tenir sans y toucher cet ostensoir précieux, cet objet d'or habituellement, dans lequel il y a Jésus vivant. Alors l'évêque porte l'ostensoir du Saint-Sacrement, puis le moment arriva, dit Pedro Arrupé, où l'évêque dut bénir le jeune malade avec le Saint-Sacrement. Le garçon regardait l'ostensoir avec cette même foi qui avait dû animer le regard du jeune paralytique dont parle l'Évangile. Et quand l'évêque eut tracé une grande croix avec le Saint-Sacrement, le garçon se leva de sa chaise complètement guéri, tandis que la foule poussait des cris de joie. « C'est un miracle! C'est un miracle !» Grâce à son permis spécial, j'ai pu assister, grâce à mon permis spécial plutôt, j'ai pu assister par la suite aux visites médicales. Le Seigneur l'avait réellement guéri, et il est inutile de vous dire quelle fut mon émotion et mon état d'âme à ce moment-là. Je venais de la faculté de médecine de Madrid, où tant de professeurs, des personnes très célèbres, et tant de camarades incroyants se moquaient toujours des miracles. J'avais été le témoin oculaire d'un vrai miracle. Miracle accompli par Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Par ce même Jésus-Christ qui avait guéri pendant sa vie tant de paralytiques et de malades. Oh, j'éprouvais une joie immense. J'avais l'impression d'être près de Jésus, tandis que je sentais sa force toute-puissante. Le monde qui m'entourait commençait à me paraître extrêmement petit. Je retournais donc à Madrid. Les livres tombaient de mes mains. Ces leçons, ces expériences qui m'enthousiasmaient autrefois me semblaient alors si vides. Mes camarades me demandaient, « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pedro, cette année? Tu as l'air abruti. » Oui, j'étais comme abruti. Par ce souvenir qui me déconcertait chaque jour davantage, seule l'image de l'hostie bénissante et celle du garçon paralytique bondissant de sa chaise restaient fixées dans ma mémoire et dans mon cœur. 3 mois après, j'entrais au noviciat de la Compagnie de Jésus à Loyola. À Loyola, d'où est originaire Saint Ignace de Loyola qui a fondé les Jésuites, c'est là qu'il y avait le noviciat. C'était en 1926, à Lourdes, puis de cette année-là, j'ai pris la décision d'entrer donc dans la Compagnie de Jésus. Le 15 janvier 1927, je franchissais le seuil du noviciat de Loyola. Fais des études en Belgique, en Hollande, parce que les Jésuites sont chassés d'Espagne. Puis il y a le troisième manque qui se fait aux États-Unis, à Cleveland, dans l'Ohio. Puis, il est nommé au Japon. Il dit, avant mon départ, les 3 mois pendant lesquels j'ai visité les prisonniers de langue espagnole dans une prison de New York, c'est extraordinaire. J'ai fait là des rencontres que je ne peux oublier. Il raconte que les gardiens gardaient, ou craignaient plutôt, pour sa vie, lorsqu'il pénétrait dans les cellules parce qu'il y avait là des criminels patentés. Et puis, il avait des appréhensions, ce pauvre jeune jésuite. Dialogue pouvait-il avoir avec du monde pareil? Mais pourtant, il s'est jamais senti en danger. Il a été le témoin puis le confident d'évolution, de repentir remarquable, comme celui de cette femme qui vient d'être exécutée au Texas. Et le jour, dit-il, où j'ai annoncé aux détenus que je quittais les États-Unis, il y eut une sorte de fête pendant laquelle nous avons chanté tous ensemble, ma faible voix se joignant à celle puissante et grave des nouveaux amis que je m'étais fait. Et comment exprimer le mystère de la vie de ces hommes auteurs d'actes abominables, et pourtant capables, à leur manière, de manifester beaucoup de sensibilité et de délicatesse. Alors il s'en va donc au Japon, le 30 septembre 1938. Il part de Seattle pour Yokohama. Et là, bien, il commence à travailler, comme je vous ai dit, avec des pères allemands dans un pays dont il ne connaissait pas la langue. Il a connu une grande solitude. Quand il s'est trouvé à Ube, à 21 heures de train de Tokyo, pour son premier poste de mission. Il parlait très mal le japonais. Mais un grand événement personnel, c'est qui lui est arrivé, c'est son emprisonnement 2 mois à Yamaguchi. Le Japon était en guerre, on l'a soupçonné d'espionnage. Il ne l'a appris qu'à la fin de son emprisonnement que c'était pour ça. Il n'avait pas de lit, pas de table, il n'y avait rien. Seulement une natte pour dormir. Il a passé des jours et des nuits dans le froid de décembre, entièrement seul. Il était tourmenté par l'incertitude de la raison de son emprisonnement. Il a appris des choses extraordinaires durant cette période d'un mois. C'est la science du silence, la science de la solitude, la science de la pauvreté sévère et austère. Il a su ce que c'est que le dialogue intérieur, dit-il, avec l'hôte de mon âme. Il dit que c'était le mois le plus instructif de sa vie. Puis finalement, bien, il a été nommé maître des novices à Nagatsuka, aux portes d'Hiroshima. Et c'est là que le 6 août 1945, il était témoin de l'explosion de la bombe atomique. Il a raconté ça dans un texte intitulé « Yo vivi la bomba atomica », j'ai vu la bombe atomique, et ça a été publié ça dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, « L'espérance ne trompe pas » aux éditions du Centurion. C'est pas très long, c'est de la page 197 à 223. Et c'était pour lui quelque chose d'absolument phénoménal. Au Japon, il lui est arrivé de célébrer une messe fantastique. Il dit, je me souviens en effet de la messe que je célébrais au sommet de la célèbre montagne nommée Fujiyama, à plus de 3000 mètres d'altitude. Il dit, j'y étais monté avec un de mes confrères. Puis en ce temps-là, il fallait presque tout monter à pied. Il fallait arriver au sommet avant 4 heures du matin pour admirer le beau panorama. Car après 6 heures, il y a des nuages. Ils sont arrivés à l'heure. Et il était arrivé au Japon, lui, peu de temps auparavant. Il vivait les premières sensations que suscitait en lui ce monde qui est comme une autre planète, le Japon. Et dans son esprit s'agitaient 1000 projets pour la conversion de tout le Japon. Il était comme Saint-François-Xavier. Hein? Et puis il était donc sur le mont Fujiyama pour pouvoir offrir au Père éternel, de l'endroit le plus élevé de tout le Japon, le sacrifice du Christ, de l'agneau immolé, pour le salut de ce grand pays. La montée avait été très fatigante. Et puis il a pensé plusieurs fois justement à Abraham, Isaac, qui sont montés sur une montagne pour le sacrifice. Puis là, il n'avait jamais célébré dans de telles conditions. Il y avait le ciel d'azur, pur, majestueux, comme une coupole d'un temple immense. En bas, il raconte, on entrevoyait le peuple japonais tout entier, composé alors de 80 millions de personnes qui ne connaissaient pas le Sauveur, et il continue en perçant la coupole sublime du ciel matériel. Mon esprit s'élevait jusqu'au trône de la majesté divine, jusqu'au trône de la Trinité, et je croyais voir la Jérusalem céleste, la ville sainte, et je croyais voir Jésus-Christ accompagné par Saint-François-Xavier, le premier apôtre du Japon, dont les cheveux blanchirent en quelques mois à cause des souffrances qu'il a dû y endurer. Et j'étais aussi face au même Japon de Saint-François-Xavier, face à un avenir totalement inconnu. Si j'avais su alors combien j'aurais à souffrir, mes mains auraient tremblé en élevant l'hostie. Je vous ai parlé de la messe du Père Arupé sur le mont Fujiyama. Il y a aussi sa première messe après l'explosion de la bombe atomique. L'explosion de la bombe atomique a eu lieu le 6 août. Et le jour suivant, le 7 à 5 heures du matin, avant de commencer à secourir les blessés et enterrer les morts, il a célébré la messe à la maison. Il y a des moments tragiques où il se sent beaucoup plus proche de Dieu. Il sent mieux la valeur de l'aide de Dieu. En vérité, évidemment, l'ambiance n'est pas de nature à favoriser la dévotion dans la célébration de la messe. La chapelle, à moitié détruite, était pleine à craquer de blessés qui gisaient sur le sol, couchés les uns près des autres et souffrant atrocement. Ces blessés se tordent de douleur. Alors il commence la messe, comme il le peut, au milieu d'une masse d'hommes qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe sur l'autel. Ce sont tous des païens qui n'ont jamais assisté à une messe. Et le père Pedro Arupé, missionnaire au Japon donc, ne peut pas oublier la sensation terrible qu'il éprouvait quand il se tournait vers eux au Dominus Vobiscum, le Seigneur soit avec vous, parce que dans ce temps-là, la messe se disait dos au peuple, il se retournait vers le peuple. Et puis il a vu ce spectacle du haut de l'autel. Il pouvait plus bouger. Il est resté comme paralysé, les bras ouverts. Il a contemplé cette tragédie humaine, cette effroyable science humaine, si admirable par d'autres côtés, ce progrès technique employé pour détruire le genre humain. Ces Japonais le regardaient, tous, les yeux pleins d'angoisse, de désespoir, comme s'ils attendaient quelques consolations qui viennent de l'autel. C'est une scène terrible. Quelques minutes après, celui dont Saint Jean-Baptiste avait dit « Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Eh bien, ce même Jésus descendait sur l'autel. Le père Arupé raconte, il dit « Je n'ai jamais senti comme alors la solitude de l'incompréhension païenne envers Jésus-Christ. On la ressent ici chez nous de plus en plus. Leur sauveur se trouvait là. Celui qui peut les libérer se trouvait là. Celui qui avait donné sa vie pour eux, mais ils ne savaient pas qui était parmi eux. C'est dans Saint Jean, chapitre 1, ça. Ils ne savaient pas qui était parmi eux. Le père Aroupé dit, j'étais le seul à le savoir. Une prière pour ceux qui avaient eu la cruauté sauvage de lancer la bombe atomique et sorti spontanément de mes lèvres. Seigneur, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour ceux qui gisaient devant moi, se tordant de douleur, Seigneur, donne-leur la foi pour qu'ils voient, donne-leur la force de supporter leur douleur. Et quand j'élevai l'hostie devant ces corps blessés et déchirés, un cri s'éleva de mon cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de ces brebis qui n'ont pas de berger. Est-ce qu'on se rend compte que notre peuple n'a, pour ainsi dire, plus de bergers, ne sont plus dans les églises? Il a ajouté, le père Pedro Aroupé, pour qu'ils croient en toi, Seigneur, souviens-toi qu'eux aussi doivent parvenir à te connaître. C'est dans la première épître à Timothée. Des torrents de grâce ont jailli, certainement, de cette hostie, cet autel. 6 mois plus tard, quand, soignés, tous avaient quitté la maison des Jésuites, 2 personnes seulement y moururent. Eh bien, beaucoup d'entre ces Japonais ont été baptisés. Tous ont appris que la charité chrétienne sait comprendre, aider, donner une consolation qui dépasse tout réconfort humain. Cette charité a communiqué une sérénité qui aide à sourire dans la douleur et à pardonner aussi à ceux qui nous font tant souffrir. De telles messes sont des moments vibrants d'intuition sacramentelle, dit le père Aroupé, qui nous font comprendre ce qu'il est difficile ou impossible de comprendre sans la foi, c'est-à-dire la valeur de la souffrance, la sublimité, la beauté du sacrifice de la charité. Alors il a été nommé, donc, supérieur général, ou général, comme on dit, 27e successeur de Saint Ignace, il était le 28e général. Il ne savait plus quoi dire quand il a été nommé. Il a été pris d'une certaine angoisse, évidemment. Et par lui, bien, les Jésuites ont été invités à se porter à tous les points où le service de l'homme et la survie de l'Église sont en cause. Le père Aroupé devait affronter le défi de l'incroyance moderne. Il fallait promouvoir la justice dans le service de la foi, tout spécialement en Amérique latine, en Amérique centrale. Il fallait établir de plus en plus ce qu'on appelle l'inculturation en s'inspirant des modèles du père Ricci qui a vécu il y a des siècles au Japon, puis Robert de Nobili, 2 jésuites dont je compte vous parler un jour. Il fallait faire une invitation aussi au drame des millions de réfugiés qui errent sur un peu partout où on ne les accepte pas toujours très bien. C'est pas facile non plus pour nous d'accepter n'importe qui. Vous l'avouez? Les peuples sont comme ça. Et les critiques n'ont pas manqué. Il a eu beaucoup à souffrir. Mais jamais un mot n'est sorti de ses lèvres, qu'il soit de confiance et d'encouragement. Jamais, jamais, il ne soupçonne une intention maligne. Il a énormément travaillé, le père Pedro Aroupé. Il a participé, avec des interventions marquantes, au fameux congrès eucharistique international de Philadelphie. Il a fait là des déclarations admirables. Puis il a dit à un moment donné, « Oui, nous sommes tous responsables, tous engagés. Dans l'Eucharistie, Jésus devient la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Il parle au nom des faibles, des opprimés, des pauvres, des affamés. En fait, il prend leur place. Et si nous fermons l'oreille à leur cri, c'est sa voix même que nous refusons d'entendre. Ô frères et sœurs, soyons honnêtes, la plupart de ceux qui sont ici ce matin s'adressaient à un groupe, sont ici nourris, bien nourris, et jouissent d'une aisance satisfaisante. C'est la plupart, c'est le cas de la plupart d'entre nous. Et il ajoute, Dieu veuille que nous ne méritions pas la condamnation que Saint Jacques réserve aux riches égoïstes, qu'il s'agisse d'individus ou de nations. Je cite le texte de Saint Jacques. Connaissez-vous cette épître de Saint Jacques? La lisez-vous souvent? Je vous lis ce passage de l'Épître 5, au tout début du chapitre 5 de l'Épître de Saint-Jean. « Eh bien, maintenant, les riches, pleurez hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repu au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. C'est un très bel évangile, une très belle épître, très moderne. On peut prier avec le Père Aroupé. Seigneur, en méditant sur notre manière d'agir, j'ai découvert que l'idéal de notre manière d'agir, c'était ta manière d'agir. Alors enseigne-moi ta manière de te comporter avec les disciples, avec les pécheurs, avec les enfants, avec les pharisiens, ou avec Pilate et Hérode. Que j'apprenne de toi, Seigneur, ta manière de manger, de boire. Comment tu prenais part au repas de fête? Quel était ton comportement? Quand tu avais faim et soif? Quand tu ressentais la fatigue après les voyages? Quand tu avais besoin de repos et de sommeil? Telle est ton image que je contemple dans l'Évangile. Une personne noble, sublime, aimable, exemplaire. Une personne qui témoigne d'une parfaite harmonie entre sa vie et son enseignement. Alors apprends-moi ta manière de regarder. Comment tu as regardé Pierre pour l'appeler à ta suite et pour le relever après sa faute? Ou comment tu as regardé le jeune homme riche qui ne s'est pas décidé à te suivre? Ou comment tu regardais avec colère les pharisiens? Fais, Seigneur, que nous soyons ainsi tes disciples, dans les choses les plus grandes et dans les choses les plus modestes. Que nous soyons comme toi totalement voués à l'amour du Père et à l'amour des hommes, nos frères et nos sœurs, nous sentant très proches de toi, car tu t'es abaissé jusqu'à nous, si éloigné de toi, Dieu infini. Oui, je veux t'imiter.